Vous écoutez l'atelier des médias avec Connect, la solution de connexion Internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique.
Salut, c'est Steven Jambeau de l'atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes si vous m'écoutez à la radio, plus encore si vous faites le choix de m'écouter en podcast. Dimanche 24 avril, les Français retournent aux urnes, cette fois pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme durant toute campagne électorale, on a vu des candidates et des candidats chercher à convaincre des électeurs de voter pour eux, critiquer leurs adversaires. Ça, c'est classique. Mais il se passe, et c'est peut-être encore renforcé à l'ère numérique, autre chose. Des manipulations de l'opinion à des fins d'influence. Des fausses informations produites dans des réseaux parallèles qui arrivent sur la place publique et ont un impact sur l'opinion publique. Car des faussaires sont à l'œuvre avec des motivations politiques, parfois économiques ou autres. On en parlera avec mon invité. Mon invité est journaliste. Durant plusieurs mois d'enquête en 2020 et 2021, il a essayé de comprendre les ressorts des motivations des personnes qui décrochent tellement de l'information qu'elles vont se mettre à produire un contenu parallèle. Il a rencontré un peu plus d'une quinzaine de ces acteurs qui produisent de la contre-information et tout un ensemble de choses qu'il a appelé dark information. Bonjour Antoine Baillet.
Bonjour Steven.
Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant et qu'on se tutoie dans la vraie vie. Tu es directeur éditorial de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Tu enseignes à l'École de Journalisme de Sciences Po Paris et tu as été rédacteur en chef numérique à Radio France ou encore à Feu, le lab d'Europe 1. En janvier, tu as publié aux éditions Robert Laffont « Voyage au pays de la dark information ». J'aimerais qu'on parle de cette expression « dark information ». Tu l'as inventée pour parler de ces contenus qui ressemblent à de l'info, mais qui n'en sont pas.
Et qui sont donc à l'information, ce que le Canada Dry était à l'alcool, d'après le slogan bien connu des années 80-90. Donc ça a le goût d'eux, ça a la saveur d'eux, mais ce n'est pas. Et donc en l'occurrence, la dark information, elle a le goût de l'information, elle a la saveur de l'information, mais elle n'est pas de l'information, parce qu'elle a effectivement été manipulée par ces personnes que j'ai rencontrées, que j'appelle des faussaires de l'information, et qui donc ajoute à un contenu qui va prendre la forme de l'information classique ou traditionnelle, une intention tout simplement malveillante et de manipulation de l'information.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de vrai dans une fausse information comme celle-là. On prend des éléments et on les assemble pour créer quelque chose qui a des fins malveillantes.
C'est tout à fait ça. Et plus encore, plus l'information créée sur le fond sera invraisemblable, et plus sur la forme, elle pourra reprendre les codes classiques de l'information. Je vais prendre deux exemples pour être très concret. Le premier, c'est l'un des points de départ d'ailleurs du livre, c'est quelque chose qui se passe en mars 2020, au moment du tout premier confinement. Se crée sur Facebook un groupe de soutien à Didier Raoult et à ses théories controversées sur la manière dont on pourrait soigner ou pas le coronavirus via l'hydroxychloroquine. Et donc se crée un groupe Facebook Didier Raoult versus coronavirus avec un emoji gros biscotto, et dans ce groupe sont diffusés des contenus qui sont par exemple des trois questions à des proches de Didier Raoult. Et donc un 3 questions A, pour nous qui sommes journalistes, c'est une forme très classique du journalisme. Et là, évidemment, ces 3 questions A, elles ont un objectif. Ils savent très bien ce qu'ils vont en dire à la fin. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui, du coup, permet de diffuser une fausse information en reprenant ces codes. L'autre exemple que je peux donner, c'est quelque chose qui s'appelle... C'est une chaîne YouTube qui s'appelle TV Liberté, qui est très proche de l'extrême droite française depuis une dizaine d'années.
La date de 2014.
Exactement. Et tous les soirs, TV Liberté diffuse sur sa chaîne YouTube quelque chose qui est un JT, un journal télévisé. Et ça reprend du coup des codes du journal télé. C'est diffusé sur YouTube. Et au départ, on peut se faire avoir par la forme, en fait. Sauf que, évidemment, c'est fait avec une visée idéologique qui est très clair dès qu'on s'intéresse au fond du contenu. Et c'est ça que j'ai souhaité appeler dark information, parce que le débat, bien sûr, aujourd'hui se cristallise beaucoup sur ce qui est vrai, ce qui est faux, sur les fausses informations. Mais pour moi, il y a quelque chose de plus vaste qui se joue. Et c'est pour ça que simplement, entre guillemets, parler des fausses informations me semblait pas tout à fait suffisant et que j'ai souhaité aller plus loin et tenter ce terme, effectivement, de dark information qui fait aussi appel à tout ce qui va se passer dans l'économie numérique. Quand on se parle, par exemple, de dark kitchen qui prépare des repas pour...
Dark, ça voudrait dire caché, c'est dans l'obscurité. Mais en fait, ce que tu expliques aussi, c'est que ça n'est pas si caché que ça. C'est-à-dire que tu es arrivé à visage découvert sur ces réseaux-là, que tu as pu intégrer assez simplement, parfois juste pour rejoindre un groupe Facebook, en l'occurrence juste remplir un petit formulaire à l'attention des administrateurs, des modérateurs de ce groupe-là, et puis on t'a laissé rentrer.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, si on fait l'analogie avec le dark web, par exemple, c'est pas très compliqué techniquement d'y aller. C'est pas plus compliqué d'aller sur ce qui s'appelle le dark web que d'aller sur le réseau VPN de votre entreprise pour tous les télétravailleurs à qui ça va rappeler évidemment des souvenirs. Et donc en fait, effectivement, le dark, c'est pas tant que c'est inaccessible, c'est surtout que c'est la face un petit peu plus sombre de la manière dont on peut voir l'information. Idem avec ce dont je parlais tout à l'heure, les dark kitchens qui permettent de fabriquer des plats cuisinés destinés à être livrés par des plateformes de livraison. C'est exactement la même chose en fait. C'est accessible assez facilement. Le fait d'y aller à visage découvert était une volonté. Ça m'a coûté des entretiens, c'est-à-dire qu'à plusieurs moments, le simple fait d'être journaliste et d'énoncer une démarche qui est celle d'un journaliste prive d'entretien, tout simplement. Mais c'était une volonté très forte parce que, il y avait aussi dans ce livre l'envie de s'interroger sur la manière dont nous, journalistes, sommes perçus par ces acteurs-là.
Tu t'es intéressé, t'as essayé de t'intéresser à l'humain, aux gens qu'il y a derrière ces dark informations. On peut peut-être aussi ici parler, avant de parler des faussaires, il y a aussi des gens qui sont simplement des décrocheurs, ce que tu appelles des décrocheurs sincères, qui sont lassés des codes de l'information traditionnelle faits par les médias mainstream, les grands médias traditionnels, radio, télé, presse écrite. Ces gens-là, ils constituent une armada ou...
D'abord, la première chose à se dire, c'est un exercice d'introspection aussi. On est journaliste, une profession dans laquelle les gens n'ont plus vraiment confiance. Aujourd'hui, les études d'opinion qui se succèdent sur ce thème le montrent. Et pour moi, pour restaurer un petit peu cette confiance possible, il faut s'intéresser aux pratiques effectivement des personnes qui vont chercher par elle-même de l'information. Si je me remets en mars 2020, il se passe un double phénomène au moment du confinement et de la crise sanitaire. Il y a à la fois l'explosion des audiences des journaux télévisés classiques. Les journaux de 20 heures en France n'ont quasiment jamais été autant regardés qu'à ce moment-là. Et en même temps, il se passe la création d'un groupe comme celui dont je parlais précédemment. Donc en fait, le tableau, il peut être aussi à un moment où les gens vont tout à la fois regarder un JT et en même temps, parce que peut-être ils sont pas complètement satisfaits de ce qu'ils y trouvent, vont essayer d'aller s'informer par eux-mêmes, par ailleurs. Et ça devient effectivement assez massif.
Et justement, il y a plein d'endroits où ces décrocheurs peuvent s'informer. Tu écris qu'ils s'informent avant tout avec des vidéos qu'ils trouvent sur YouTube, sur Odyssée, dans des groupes Facebook, WhatsApp ou Telegram privés. Donc là, ce sont des contenus qui effectivement ne sont pas référencés sur Google. Des contenus qu'en creusant un petit peu, on arrive à trouver très simplement, quoi.
Et en fait, je diagnostique un peu une double circulation. C'est-à-dire qu'il y a des lieux comme WhatsApp ou Telegram, cette messagerie sur laquelle on peut échanger beaucoup de messages, où il va y avoir des espèces de mise en circulation de premières informations, de premières conversations qui vont être assez extrêmes et qui vont pouvoir s'appuyer sur une plateforme, par exemple, telle que, effectivement, Odyssée, qui est une version de YouTube.
Non modérée, en fait.
Exactement. Totalement non modérée de YouTube. Et en fait, de là, va s'organiser une diffusion plus massive sur YouTube, Facebook, qui sont vraiment là, pour le coup, l'Internet de monsieur, madame, tout le monde. WhatsApp, Telegram, notamment Telegram, ça reste quelque chose qui est important comme messagerie, mais qui n'est pas aussi massif dans les usages. Et donc, en fait, il y a vraiment ce niveau de conversation, de mise en circulation de certaines théories qui vont, après ça, se diffuser dans l'Internet grand public.
C'est-à-dire que ce sont véritablement des petites entreprises de fabrication de fausses informations et des contenus qui sont textuels, qui sont des photos, qui sont des vidéos, qui après, eh bien, sont modifiés, malléables à souhait et réutilisés pour des productions ultérieures.
Et à certains moments, le travail va même pas forcément être là. Une manipulation d'un contenu vidéo, ça peut être tout simplement une décontextualisation d'un contenu vidéo. Si on coupe dans une vidéo à un certain moment et qu'on décide de lui donner un sens qu'elle n'avait pas au départ, c'est une manière de manipuler également l'information. Donc l'entrée, quelque part, la barrière à l'entrée, elle est très simple. Ce ne sont pas de grandes entreprises technologiques que cette manipulation. L'exemple que je racontais tout à l'heure, cette histoire de trois questions à un proche de Didier Raoult pour lui faire raconter sa version du coronavirus, c'est extrêmement simple à faire. C'est un coup de fil, de la retranscription et hop, c'est parti. C'est quelque part aussi simple que ça.
Je disais en introduction, tu avais rencontré une quinzaine de ces acteurs qui produisent de la contre-information. Qui sont-ils ? Y a-t-il dans leur identité ou en tout cas des choses communes dans leur profil ?
La première chose qui est extrêmement marquante, c'est de se dire que on peut avoir ce cliché de quelqu'un qui serait un bac moins 5, qui écrit des messages remplis de fautes ou que sais-je. C'est exactement l'inverse. Tant du côté des décrocheurs que des faussaires, j'ai rencontré des personnes qui sont extrêmement insérées dans la société. J'ai rencontré des enseignants, j'ai rencontré des avocats. Ça, c'est plutôt chez les décrocheurs. Chez les faussaires, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai rencontré des élus. Et donc, du coup, on n'est pas du tout sur ce cliché ne correspond pas à ce que moi j'ai pu éprouver effectivement dans la série de rencontres que j'ai pu faire.
Mais c'est une défiance qu'ils manifestent ainsi, mais aussi ils arrivent à fédérer justement via des communautés en ligne qui sont hyper actives, sur lesquelles il y a un taux d'engagement très élevé, c'est-à-dire beaucoup de likes, de commentaires, de partages, assez dingue, avec des groupes qui rassemblent parfois des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes.
Si on prend l'exemple, effectivement, de quelqu'un qui s'appelle, on va le nommer Silvano Trotta, qui en France est
une figure de la complosphère.
Exactement, c'est une très bonne présentation. C'est un entrepreneur, il est patron d'une PME de télécommunications dans l'Est de la France, donc comme je disais, quelqu'un inséré socialement. C'est le cas, c'est totalement le cas. Il a un channel sur Telegram, il a une double présence en fait sur la messagerie cryptée sécurisée Telegram, à la fois un endroit où il émet des messages auxquels personne ne peut participer, c'est lui qui émet un message. Et là, il est suivi par 160 000 personnes. Et il a également une autre communauté où cette fois, ses fans peuvent participer et émettre par eux-mêmes des messages. Et effectivement, là, on est sur 10-15 000 personnes qui sont présentes dans ce channel, avec effectivement des taux d'engagement qui sont assez dingues, puisque vous vous connectez à ce groupe et vous voyez que sur 15 000 personnes, il peut y avoir jusqu'à 5, 6, 7 000 personnes connectées en même temps, ce qui est extrêmement rare. Ce ne sont pas juste des personnes qui rejoignent un groupe qu'elles vont laisser dormir dans un coin de leur téléphone. Non, non, ce sont des gens qui vont vraiment prendre part aux échanges. Et ça, c'est typiquement un des lieux sur lesquels on va voir se former des théories qui ensuite vont ruisseler ailleurs dans l'Internet grand public.
Et aussi dans la vie réelle, dans le concret, on l'a vu notamment avec les manifestations anti-pass vaccinal de l'été 2021 qui rassemblaient dans plusieurs villes de France des dizaines de milliers de personnes où les slogans que l'on voyait sur ces groupes Telegram ou sur ces groupes Facebook étaient sur des pancartes dans la rue.
C'est effectivement quelque chose qui s'est passé de manière concomitante à l'enquête que je menais en ligne. Cette sphère de la dark information ne reste pas que en ligne. Elle défile, elle manifeste. Quand il y a 3000 personnes, ça peut paraître rien du tout, mais 3000 personnes à Nancy le 3 juillet, alors que toutes les forces de police que j'avais interrogées avant me disaient qu'il va y avoir 150, 200 personnes, et que ce sont des personnes qui sont réunies pour crier leur détestation et leur colère contre le vaccin, ne serait-ce que ça, on en était encore à ce moment-là. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Idem à Paris le 17 juillet, quand après les annonces sur le passe vaccinal, il y a quelques 20 000 personnes dans la rue, il se passe quelque chose où ça débarque après ça dans le monde réel, tout simplement.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, je converse avec Antoine Baillet, directeur éditorial de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Antoine, depuis fin février, il y a une guerre en Europe, la guerre en Ukraine, et on se rend compte que sur ces réseaux de dark information, dans ces communautés, ceux qui étaient anti-vax, anti-pass, sont pour certains devenus pro-russes reprennent les éléments de langage de la Russie de Vladimir Poutine, et ce sur fond aussi de suspension en Europe de la chaîne d'État Russia Today. On se rend donc compte que les thématiques sont mouvantes et qu'il peut y avoir parfois des glissements en matière d'orientation éditoriale. J'oserais presque dire, dans ces communautés.
Je vais vous raconter ma propre expérience. Effectivement, moi, j'étais membre de tous ces groupes, de toutes ces pages Facebook, de tous ces groupes Telegram, que j'ai beaucoup documenté au premier semestre 2021, de la crise sanitaire. Sans que je ne fasse rien, sans aucune démarche proactive de ma part, effectivement, à partir du 24 février et le déclenchement de la guerre en Ukraine, je me suis retrouvé, moi, inondé d'informations qui, au départ, étaient formulées sous forme de questions, c'est-à-dire, est-ce qu'on nous dit tout sur la guerre en Ukraine ? Et puis ensuite, effectivement, au moment où, quelques jours après le début du conflit, dès le dimanche 27 février, la chaîne Russia Today en France est interdite d'émettre, là, on passe à une autre forme de mobilisation, puisqu'il commence à y avoir des pétitions sur ces groupes qui, au nom de la liberté, vont se mettre à défendre Russia Today. L'État français censure Russia Today. C'est ça le mot d'ordre. Et ça, c'est un mot d'ordre qu'on retrouvait déjà dans les manifestations anti-pass vaccinales. C'était l'espèce d'atteinte aux libertés. Quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment ce qui est arrivé à mon fil d'actualité, aux notifications que je recevais sur mon téléphone, en m'étant intéressé au départ à ces groupes au moment de la crise sanitaire, je me suis retrouvé effectivement noyé de commentaires et de pseudo-informations remettant en question clairement en faveur de Vladimir Poutine et de l'action russe en Ukraine. Ce qui est assez incroyable parce qu'en fait, ça veut dire que des personnes qui, même au départ, si elles n'avaient pas vraiment d'intérêt pour ça, sont susceptibles de se faire embarqué à ce moment-là dans une lecture complètement alternative de l'actualité.
J'invite aussi les auditeurs à réécouter notre émission consacrée à Russia Today et son positionnement alternatif. Mmh. C'était l'atelier des médias du 12 mars avec Maxime Audinet, chercheur à l'IRSEM. Je me pose la question, dans tous ces groupes qui rassemblent plein de monde, en fait, Internet est un espace de liberté, Internet est un espace qui peut aussi s'autoréguler, et lorsqu'il y a des fausses informations qui sont postées sur certaines de ces communautés, n'y a-t-il pas dans les commentaires des conversations qui s'engagent avec d'autres utilisateurs qui disent mais attendez, c'est n'importe quoi, ça ne tient sur rien, regardez telle enquête fouillée faite par tel média respectable. Non, il n'y a pas cette régulation qui s'opère.
C'est l'inverse qui se passe, c'est vraiment une forme d'autoradicalisation également. Et là, pour le coup, on est dans le phénomène des bulles de filtre qui vont vraiment accélérer très fortement et qui vont encourager des personnes à se remonter entre elles.
Ce qu'on appelle les bulles de filtre pour nos auditeurs, donc c'est le fait qu'il y a des algorithmes qui opèrent, par exemple, évidemment, sur Facebook, et qui font qu'un utilisateur qui se met à commenter, à liker, à interagir avec des posts, des informations sur certains sujets, ne se retrouve, par la puissance de ces algorithmes, à ne voir que des informations sur ce seul et même sujet, et donc avoir, lui, l'impression que tout le monde pense comme lui.
Elle est très difficile, la question que tu posais, parce que il n'est pas question de se dire que la technologie par elle-même est négative. Les réseaux sociaux, et on se parlait de la guerre en Ukraine à l'instant, il ne faut pas oublier, là, on se focalise sur un aspect des réseaux sociaux qui est, oui, effectivement, dans des pays occidentaux, en France notamment, on va avoir ce phénomène où des décrocheurs et des faussaires de l'info vont se mettre à diffuser des théories pro-Poutine. Ouais, c'est une version de ce qui se passe. C'est une réalité de ce qui se passe. Ce n'est pas la seule, évidemment, le simple fait que l'on puisse continuer à recevoir de l'information venue d'Ukraine et que tout au long du conflit, on ait reçu des vidéos venues d'Ukraine, notamment via les réseaux sociaux, faut pas l'oublier non plus, au contraire. Donc là, on est vraiment dans la désintermédiation de l'information, dans ce qu'elle peut avoir de pire, mais je ne rejette jamais et je n'oublie jamais ce qu'elle peut apporter de meilleur également.
Ce que tu dis dans ton livre aussi, c'est qu'en termes de volume, un tiers des contenus mis en ligne sur les réseaux sociaux sont de la dark information.
Alors
ça me paraît énorme.
C'est effectivement le constat que j'ai fait, suivant la méthodologie suivante. Sur l'année 2020, j'ai pris 10 gros événements de l'actualité mondiale de l'année 2020, donc à savoir le Brexit, à savoir l'élection américaine en 2020. Je suis allé regarder quelles étaient les 10 actualités qui avaient suscité le plus de commentaires là-dessus, et puis j'ai regardé, je suis remonté à la source tout simplement. Donc j'ai constitué mon corpus de 100 news, 100 actualités qui avaient été parmi les plus partagées. Et après ça, j'ai fait un travail d'enquête en regardant quelle est la source, quelle est l'origine de chacune de ces informations. Et effectivement, je suis arrivé à ce constat de un tiers de ces contenus qui étaient d'origine douteuse et que je rattachais à cette sphère de la dark information. Ça peut être parce que ça venait de médias d'État, à l'exemple de Russia Today, ou de groupes Facebook que j'appelle et que je qualifie comme étant ceux de la dark info. Et là, je me suis vraiment intéressé à la notion de du partage de ces contenus.
De l'impact, en fait.
Exactement. Parce que je me suis pas juste basé sur les audiences ou que sais-je. C'est vraiment la mécanique du partage qui m'a intéressé. Et effectivement, je suis arrivé à ce constat qui est un tiers, 30% à peu près de cette information qui était d'origine et que je rattachais à la dark information.
Et donc face à cela, même une tentative de contre-feu de la part de services de fact-checking, de vérification de l'information de la part de médias très établis ne suffit pas.
C'est exactement ça. Il n'est pas question de se dire que ça ne sert à rien. Au contraire, bien sûr que si un article de fact-checking permet de toucher et de convaincre une personne, c'est déjà quelque chose qui, je pense, est gagné. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, sur l'impact, on peut se dire que ça reste assez marginal et c'est forcément quelque chose qui interpelle.
On en parle régulièrement dans l'atelier des médias, mais derrière ces mouvances de dark information, il y a bien un business. Tu cites notamment l'exemple du site France Soir, qui a été un journal vénérable, il fut un temps en France et qui est maintenant entre les mains d'un désinformateur notoire. Chaque mois, tu le dis, 40 à 50 000 euros de revenus publicitaires sont générés par la publicité sur ce site-là qui fait de la désinformation.
J'appelle même effectivement France Soir la bible des complotistes, qui me semble, parce qu'aujourd'hui, et parmi les personnes que j'ai rencontrées après ça sur le terrain, je me suis rendu compte que les théories diffusées par France Soir, touchée et impactée et était reprise. C'est pas juste quelque chose qui reste en ligne. Moi, vraiment, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y en a qui m'ont dit « Ah, j'ai vu telle information !» Et quand je remonte, effectivement, c'est quelque chose qui vient de France Soir au départ. Donc ça a vraiment... c'est pour ça que j'ai qualifié France Soir de bible des complotistes. Et effectivement, sur le site internet de France Soir, aujourd'hui, il y a des espaces publicitaire. Google a coupé une partie de cette monétisation, mais il reste d'autres solutions publicitaires. Et effectivement, à partir de l'entretien que j'ai eu avec Xavier Azalbert, qui est donc cette personne qui est aujourd'hui propriétaire de France Soir, à partir des chiffres d'audience qu'il m'a communiqué, que évidemment je n'ai pas pu vérifier, j'ai pas eu accès aux outils statistiques de France Soir, mais à partir de ce qu'il m'en a dit, si j'y applique les revenus publicitaires moyens qui peuvent être dégagés, j'arrive à cette estimation de 40-50 000 euros de revenus publicitaires tous les mois, sachant qu'en face, cette personne a une structure de coûts qui est extrêmement limitée, voire nulle, puisqu'il n'y a pas vraiment de salariés chez France Soir. Donc, ça permet effectivement d'être des petites entreprises qui permettent de vivre. Et c'est d'ailleurs un des points qui me rend pas complètement optimiste pour la suite. À partir du moment où il y a de l'argent et où il est difficile de couper ce robinet financier, on peut se dire que la suite va être compliquée.
Essayons de nous intéresser maintenant au rôle des journalistes dans tout ça, leur positionnement en tout cas. Dans ton livre, Antoine Boyer, tu écris « Aujourd'hui, des centaines de milliers, si ce n'est des millions de Français vont chercher de l'information dans ces zones grises, loin de l'Internet civilisé. Un constat que nous, journalistes traditionnels, ne pouvons plus ignorer. Il faut absolument faire l'effort de les entendre, essayer de les comprendre. Tu ajoutes « Une partie des journalistes reste déconnectée des pratiques informationnelles réelles et en pleine croissance de leurs concitoyens. »
Je ne me souvenais plus que j'avais été aussi dur. Il y a pas un mot que j'enlèverais effectivement à cette phrase. Oui, la posture de départ, ce serait d'un journaliste, serait de se dire « Ok, tout ça c'est marginal. Tout ça ne m'intéresse pas et je continue à parler à mon audience classique, traditionnelle. » Ouais, c'est peut-être même confortable aussi. Et on a vu, c'est ce qui s'est passé à certains moments sur les réseaux sociaux, quand des journalistes commençaient à être pris à partie ou interpellés par des personnes sur les réseaux sociaux parce qu'elles allaient pointer des petites erreurs plus ou moins graves dans leur papier. Bon, là, il y a deux attitudes. Soit on se dit « Ok, non, stop, je ferme ça, je ne m'y intéresse pas. »
Carapace,
exactement. Soit à l'inverse, on se dit « Il est en train de se passer quelque chose et je dois comprendre ce quelque chose. » Évidemment, moi, j'encourage plutôt à la deuxième posture, parce que si les journalistes ne s'intéressent pas à cela, effectivement, il y a un moment où on peut être coupé des pratiques informationnelles réelles.
Mais ce qui est compliqué, c'est la virulence, c'est la violence même des propos que tiennent certaines personnes sur les réseaux sociaux à l'encontre des journalistes, parfois, et qui effectivement peuvent donner envie ou peuvent contraindre certains journalistes à se carapater ou parfois disparaître même des réseaux sociaux.
Je ne peux absolument pas le blâmer, je le comprends. Néanmoins, se dire que l'ensemble du décrochage actuel par rapport aux médias doit être évacué d'un revers de main, il s'est passé un petit peu ça, parfois, au moment si je reviens encore à cet exemple du confinement de mars 2020, à certains moments, on a pu voir des journalistes, quelque part, s'enorgueillir des audiences des JT, sans voir qu'en même temps, il se passait autre chose. Ça, je pense que c'est dangereux, que ça peut être assez vite dangereux, parce qu'on ne voit pas quelque chose qui est quand même important, qui concerne jusqu'à un tiers des contenus qui peuvent être mis en circulation, qui a des conséquences dans la vraie vie. Et pour moi, il faut s'y intéresser.
Face à cela, il y a donc trois solutions, ou en tout cas trois choses qui doivent aller ensemble, sans qu'il y ait d'ordre particulier. Donc une remise en question des journalistes, on vient d'en parler. Il y a également un rôle particulier des plateformes, les fameuses GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui doivent créer des processus particuliers pour que l'information puisse être diffusée, que la contre-information ne perce pas comme elle peut le faire parfois actuellement. Et il y a également quelque chose d'essentiel, c'est l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Et dans ton livre, Antoine Boyer, tu dis en tout cas qu'il est regrettable qu'elle ne soit pas suffisamment financée et même qu'elle ne soit pas suffisamment prise au sérieux, alors qu'en France, elle est pourtant dans les programmes scolaires depuis bientôt 10 ans.
Elle est dans les programmes scolaires de manière transverse, l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire qu'elle peut être abordée aussi bien à certains moments dans des cours de technologie que dans des cours d'histoire que dans des cours de français.
On pourrait dire que c'est une bonne chose.
C'est une intention qui est éminemment louable. Effectivement, l'éducation à l'info peut se faire à tout moment ou presque, sauf qu'à force d'être diluée, elle finit par pas réellement être prise très fortement au sérieux. J'échange dans le livre et j'interviewe dans le livre le patron du CLEMI, le centre de liaison qui fait le lien entre l'éducation nationale et les médias, qui forme des enseignants à l'éducation aux médias et à l'info, pour qu'ensuite ils puissent effectivement mener des ateliers en salle de classe, mener des réflexions et des cours tout simplement en salle de classe. Il y a à peu près, lui me dit que le budget de son institut est de 5 millions d'euros par an, rapporté à 13 millions d'élèves à peu près en France. Bon, ça donne une idée de l'investissement qu'on y consacre. Je ne sais pas s'il faut en faire une matière à part. Certaines personnes que j'interviewe dans le livre me le disent, c'est le cas du député Bruno Studer, qui était patron de la commission des affaires culturelles et éducatives à l'Assemblée nationale, un député LREM. Et lui me dit, c'est un ancien prof d'histoire. Lui s'est confronté en salle de classe aux théories du complot sur les attentats de Charlie Hebdo. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et lui me dit, oui, il est sans doute temps de se dire que ça doit être une matière à part entière. Voilà, le débat est ouvert et j'aimerais effectivement que ce débat il existe un peu plus largement parce que, effectivement, quand on voit les solutions possibles, je suis pas ultra optimiste sur le fait que les GAFAM modifient des algorithmes spontanément pour pousser telle ou telle information. C'est pas forcément leur intérêt. Donc,
sont des agences publicitaires. Enfin, ce sont des entreprises qui veulent vendre de la publicité.
Exactement. Et donc, du coup, effectivement, il reste cette question de l'éducation aux médias et à l'info dont on peut se dire, c'est quand même la manière d'essayer d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir à l'esprit critique et d'apprendre à douter, tout simplement, sur les informations.
On est en plein à l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en France. La dark information dont tu parles dans ton livre, Antoine Baillet, a de l'influence sur l'élection présidentielle. Et tu le prédis déjà, les résultats du deuxième tour devraient être contestés, ou en tout cas, même la légitimité même de scrutin devrait être contestée par certaines communautés.
Je ne l'espère pas. Mais hélas, en fait, ce que j'ai pu observer de ces communautés, c'est que d'une cause à une autre, elles vont se mobiliser, se retourner très rapidement.
Premier tour, là, tu t'en rends compte déjà ?
Il y a eu quelques contestations au moment du premier tour, oui, mais finalement pas forcément tant que cela. Et en réalité, moi, je ne le souhaite pas que les résultats soient contestés. C'est plutôt un cauchemar. Je serais ravi que ça ne se passe pas de cette manière-là. L'influence sur l'élection présidentielle, elle est évidemment réelle. Et tout ce dont on se parle depuis le début de cette émission est évidemment un phénomène qui va surtout profiter aux extrêmes en général, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'extrême gauche. C'est une machine à radicaliser la lecture du monde qui peut être faite. Dans le livre, je documente plusieurs cas qui sont clairement situés à l'extrême droite. J'aurais pu m'intéresser à d'autres communautés en arrivant à peu près au même constat.
Antoine Baillet, en épilogue de ton livre, tu fais de la prospective, un peu de fiction, avec des scénarios de ce qui va se passer. Pourquoi ? pas forcément très journalistique, j'ai envie de dire, mais...
On est pour moi à la croisée des chemins, et je ne sais pas où la balle va retomber. Il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut se dire que ce monde non régulé va continuer à prospérer, à encourager des débordements. Effectivement, l'un des scénarios que j'imagine, c'est la chute même d'un pouvoir légitime en place par un blocage de Paris, par des voitures. Quelque part, c'est pas très loin de ce qui s'est passé avec les convois dits de la liberté en février. Donc ça, c'est la version non régulée et où on peut se dire qu'il y aura effectivement un engrenage qui va se faire. Oui, j'imagine également une version un petit peu plus optimiste avec un électrochoc de régulation qui pourrait se faire et un développement tout simplement de la place aussi de l'esprit critique et de l'éducation aux médias dont je parlais précédemment. Je ne sais pas où la balle retombera et pour moi ce recours à la fiction était la manière de le symboliser.
Merci beaucoup Antoine Baillet.
Merci beaucoup Steven.
Merci d'être venu dans l'atelier des médias. Je rappelle que tu es directeur éditorial de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Ton livre « Voyage au pays de la dark information » est paru en janvier aux éditions Robert Laffont.
L'atelier des médias.
Comme chaque semaine, on termine avec Mondo Blog Audio qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Direction la Grande Île, Madagascar, avec la blogueuse Yandjatine Randrenandjason qui s'est intéressée aux campagnes présidentielles et plus précisément aux stratégies de communication utilisées par les candidats pour convaincre les électeurs.
RFI.
Aucune élection n'a jamais été gagnée sur un programme, une vision de la société. Le camp qui gagne une élection est celui qui réussit à vendre du rêve, comme s'il pouvait devenir réalité. Les campagnes politiques s'apparentent de plus en plus à des campagnes publicitaires. Tout est dans la communication. Choisir les bons mots et les dire au bon moment, en utilisant tous les moyens de communication actuels. Sous d'autres cieux, selon le pays où l'on se trouve, celui qui gagne les élections est celui qui a réussi à distribuer le plus de t-shirts et le plus de produits de première nécessité. Dans tous les cas, le discours a une grande importance. Aucun candidat n'y échappe. Le discours n'est jamais trop réaliste ni alarmiste. celui ou celle qui veut gagner avouera rarement que tout ne pourra pas être fait. Au contraire, le candidat trouvera les mots justes pour d'improbables mais alléchantes propositions. Tous diront que rien ne pourra se faire sans les électeurs, que la tâche est immense, mais elle pourra être réalisée à la seule condition de leur élection. En résumé, votez pour moi ! Au centre de la communication, le slogan est l'instrument ultime de séduction. C'est une sorte de signature. Les slogans sont souvent décortiqués par les analystes politiques qui les confrontent à la réalité du pays. On se souvient du « Make America Great Again » de Trump ou du « Yes We Can » d'Obama. À Madagascar, l'ancien président Ravalomanana avait réussi à convaincre avec son « Azamatawatch » c'est-à-dire « Ne craignez rien, croyez juste ». Tous les candidats cherchent à faire carburer la machine électorale avec de bons mots. Une fois le candidat élu, c'est une autre affaire. Tout le monde revient à la réalité. Fini le théâtre et les grandes envolées. Le slogan qui suit l'élection est souvent le même. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi et surtout pouvoir. Les élus temporisent leur discours, la lune de miel avec les électeurs est terminée. Pour ne pas déchanter, je conseille aux électeurs de toujours garder la tête froide, même dans la ferveur des campagnes électorales. Les programmes politiques doivent être décortiqués. Est-ce réaliste ? Par quels moyens le candidat va-t-il s'y prendre ? En politique, comme pour les histoires d'amour que l'on veut voir durer, il ne faut pas juste écouter son cœur, il faut aussi emmener sa tête avec soi. Alors, allez voter, mais choisissez le candidat le moins bonimenteur ou le plus réaliste dans ses rêves de grandeur.
Mondoblog.org.
Les propos de la blogueuse malgache Yanjatine Randrenanjasson résonnent avec la situation d'entre-deux-tours que vit la France actuellement. Aux Français qui m'écoutent, oui, il faut aller voter, oui, il faut mettre un bulletin dans l'urne, choisir en conscience qui représentera ce pays pendant 5 ans. À Madagascar, RFI compte 10 émetteurs, je salue notamment ceux qui nous écoutent à Tana, la capitale, sur le 96 FM. C'est ainsi que se termine cette émission réalisée par Simon De Creuse. Mondoblog Audio est piloté par Camille Deloche. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en version longue, en podcast, chaque samedi, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast ou encore l'appli Radio France. Mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias sur les plateformes que je viens de citer et commentez-le pour qu'il touche un plus large public. Je vous assure, ça compte. Pour me contacter, un message via Twitter ou un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambaud, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Vous avez écouté l'Atelier des médias avec Connect. Connect, l'internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique, dans les grandes villes, les petites et même au village.